Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue sur France Culture pour le service protestant. C'est avec Elian Cuvillier, pasteur de l'Église protestante unie de France et professeur à la faculté de théologie protestante de Montpellier, que nous allons cheminer ce matin en réfléchissant notamment sur ce que nous avons vécu durant ce fameux confinement et en le mettant en perspective de deux textes des évangiles. Imaginaire, cauchemar, fuite, nudité, vêtements seront des mots qui s'animeront, prendront sens et nous aideront certainement à aller de l'avant. Et tout commence et finira en rime et en poésie.
Je connais la fontaine qui sourd et coule, bien que de nuit. Profond est le secret de cette fontaine, mais je sais la trouver, la chose est certaine, bien que de nuit. Et guidé par la foi dans la nuit obscure, j'aime boire cette eau fraîche et pure, bien que de nuit. D'où vient-elle, on ne sait, elle est très ancienne. Mais je sais qu'il n'est rien qui d'elle ne vienne, bien que de nuit. Sa clarté que jamais ne couvre la nue, toute clarté, je sais, nous en est venue, bien que de nuit. Présente et appelant toute créature, et chacune y vient boire en la nuit obscure, car c'est la nuit. La fontaine éternelle, à l'eau délectable, je m'y abreuve dans la parole qui s'écoute au cœur de la nuit. Nous avons vécu ce printemps une période étrange et éprouvante. Nous en garderons sans aucun doute le souvenir pour de longues années. Pour toute une génération, cela restera une expérience aussi inattendue qu'éprouvante. Pour d'autres, en d'autres temps, en d'autres lieux, ce fut ou c'est la guerre, la catastrophe, la misère, le malheur. Pour nous, habitués au confort, à la liberté de circuler, à la sécurité et aux risques calculés, ce fut la découverte d'un réel éprouvant qui a fait irruption dans nos existences. Comment faire avec? Nous tentons, chacun avec les moyens du bord, de construire des digues, d'expliquer, d'oublier, de donner du sens. Toute une foule d'imaginaires se propose aux humains pour trouver les mots afin d'expliquer l'inexplicable. Pour nous qui nous disons chrétiens, c'est vers les Écritures que nous nous tournons pour trouver les ressources afin de penser la période que nous avons traversée, à vivre aussi celle qui s'ouvre devant nous. Je vous propose ce matin d'écouter deux courts textes de l'Évangile de Marc, qui se situe au moment de la mort de Jésus pour le premier et lors de la résurrection pour le second.
Au chapitre 14, les versets 50 à 52, « Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Un jeune homme suivait Jésus, vêtu d'un simple drap de lin. On essayait de l'arrêter, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. » Et au chapitre 16, les versets 1 à 8, lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles rentrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à sa droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. » Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi.
Qui est ce jeune homme, Néaniskon en grec, vêtu d'un simple drap, Sindon en grec? Ce jeune homme qui va se retrouver en fuite dans le plus simple appareil, c'est-à-dire nu. Pourquoi est-il resté plus longtemps que les autres? Fut-il le témoin discret et pensait-il non impliqué du drame en train de se jouer? Ni disciple, ni traître, ni soldat, ni romain, ni juif, neutre en quelque sorte. Pas sûr. Non, il est plutôt dans un hors-champ. La neutralité est en effet une illusion. Ce jeune homme, on va le voir, est impliqué jusqu'au cou dans l'affaire Jésus. Nous y sommes, nous humains, et que nous le voulions ou non, toujours jusqu'au cou. Ainsi de ce confinement que nous avons vécu. Malades, soignants, travailleurs indispensables au fonctionnement du pays ou simples citoyens reclus au domicile. Tous nous avons été pris par cette déferlante de la pandémie. Jamais neutre. D'une manière ou d'une autre, impliqué. Ce jeune homme était peut-être là pour se faire une opinion plus précise, à moins que ce ne soit par sympathie pour la cause défendue par Jésus. Mais une sympathie qu'il voulait à distance. Or voilà que de simples spectateurs qui pensaient possible d'en savoir un peu plus que les autres en restant plus longtemps, mais à distance. Voilà qu'il va lui falloir littéralement sauver sa peau. Pour cela, il va devoir abandonner le drap rassurant qui le protégeait du regard des autres. Ce drap qui lui donnait une contenance, une identité. Oui, il faut laisser le drap qui le couvre pour sauver sa peau. Qui veut sauver sa vie la perdra, dit d'ailleurs l'Évangile. D'une certaine manière, confronté à la nécessité de sauver sa vie, le jeune homme perd l'image qu'il avait de lui et qu'il donnait aux autres. Il s'enfuit tout nu, déshabillé de toutes ses sécurités en perdant son drap, de toutes ses certitudes. L'image de ce jeune homme perdant son drap me fait penser à un tableau de la Renaissance, Caravage ou Piero della Francesca et les tissus qui enveloppent les corps. Il vous est peut-être arrivé de rêver que vous deviez vous enfuir sans avoir le temps de vous vêtir. Quand cela arrive, nous ressentons alors un profond sentiment d'insécurité, celui d'être livré aux autres et au monde dangereux qui nous entoure. Un véritable cauchemar. Eh bien, c'est ce qui arrive au jeune homme. Il n'a plus rien. Il n'est plus rien. Le drap qui couvre aux yeux de tous ce qu'il est véritablement est tombé. Il est sans protection devant les autres, nu. Comme on dit de la vérité qu'elle est toute nue. Mais la vérité toute nue, on ne peut la voir en face. On en meurt. Alors il nous faut des draps pour nous vêtir. Comme peut-être en ce temps de confinement que nous avons vécu, nous nous sommes trouvés devant le risque d'être nus face à nous-mêmes, et peut-être aussi face aux autres avec lesquels nous avons traversé ce moment. Difficile de cacher longtemps ce que nous sommes, ressentons ou vivons dans les moments difficiles. Mais pourquoi a-t-il fallu en arriver à cette extrémité? Impossible à dire. Pour ce jeune homme, serait-ce qu'au plus profond de lui-même, il a ressenti le désir d'aller jusqu'au bout, plus loin encore que les disciples? Car les disciples, eux, ont fui avant d'être mis à nu. Ce jeune homme, lui, quelque chose l'a poussé à faire un pas de plus, ou plus exactement, quelque chose l'a poussé à ne pas bouger, à rester là, pour tenter d'aller jusqu'au bout de cette histoire absurde et tenter d'en comprendre la vérité. Mais voilà qu'en attendant un peu plus longtemps, il a pris un risque inconsidéré, le risque qu'on mette la main sur lui. Et pour échapper à cette capture, il ne doit son salut que dans l'abandon du dernier bien qui est le sien, son vêtement, dont on sait qu'il est signe d'identité. La fuite ne l'a donc pas laissé indemne, nu, vide de tout. Il lui sera plus difficile de reconstruire sur des illusions. Son drap, vous savez, celui dont on se drape, comme on dit de quelqu'un qu'il est drapé de certitude. Son drap est resté sur le bord du chemin, plus exactement entre les doigts du soldat qui voulait le saisir. Il me plaît alors d'imaginer que le drap du jeune homme n'est pas perdu pour tout le monde. Il me plaît d'imaginer que ce drap a servi pour autre chose. Nous le retrouvons en effet, ce drap, pour envelopper le corps de Jésus. C'est en effet le même terme, syndon en grec, qui est utilisé ici, seule autre fois dans l'Évangile. Il y a bel et bien deux seules mentions d'un drap dans tout l'Évangile de Marc, celui du jeune homme laissé entre les mains des soldats, et celui acheté par Joseph d'Arimathée pour envelopper le corps de Jésus, pour cacher justement sa nudité. Car Jésus, ne l'oublions pas, a été crucifié nu, après qu'aient été partagés ses vêtements. Crucifié nu, c'est-à-dire crucifié dans la vérité de ce qu'il était, sans masque de protection et sans fard. La vérité toute nue, celle du Dieu mort, du Dieu crucifié. Mais avec le drap, voilà que l'on se dépêche pudiquement et religieusement de le recouvrir, de lui redonner une dignité, de le rendre respectable, regardable, acceptable, vénérable même. C'est indispensable, parce que la nudité en cette affaire est insupportable. Oui, il me plaît d'imaginer que Joseph d'Arimathée a racheté au soldat le drap du jeune homme, qu'il a payé de ses deniers les certitudes abandonnées d'un autre, qu'il a récupéré ses restes et a ainsi permis que se perpétue dans l'histoire l'illusion que devant le Dieu crucifié, nous pouvons être maîtres de quelque chose, que nous pouvons ne pas être totalement déstabilisés devant cette mort étrange et scandaleuse. Avec un corps à posséder, à embaumer, il a permis que nous puissions aller jusqu'au bout sans nous dévêtir totalement de nos sécurités humaines. Toujours drapés de quelques certitudes religieuses, philosophiques, morales, agnostiques, scientifiques, que sais-je encore. Des certitudes au moyen desquelles nous allons pouvoir donner un sens acceptable à ce corps mort. Joseph d'Arimathée, il est bien vivant, lui, il va racheter le drap. Il ne peut pas supporter la castration toute nue. Il faut l'envelopper. Il faut envelopper la nudité. Autrement, on est complètement impuissant. On est dans la vulnérabilité la plus extrême, la mort et la naissance. Tous nous sommes confrontés à la castration. On ne peut pas vivre hors enveloppe. La preuve de l'humanité de Joseph, c'est qu'il rachète le drap. Dans notre quête de certitude, le jeune homme nu, lui, n'est plus là pour nous accompagner. Dans notre tentative de récupération du corps mort de Jésus, le jeune homme nu nous laisse seuls. Il n'est plus à nos côtés. Mais il n'a pas pour autant disparu. Il est simplement ailleurs. Non pas au dehors de la tombe comme les femmes, mais au-dedans, au plus profond de la sombre caverne, au plus profond de la mort. Et de cette mort, il est ressorti, nous dit le texte de Marc, pour s'asseoir à droite, tel le jeune homme, seul autre emploi dans l'évangile du terme néaniscon, tel le jeune homme dans le tombeau au matin de Pâques. Mais à droite de quoi ? À droite d'une place vide. Il est là pour constater l'absence du corps et l'absence du drap qui enveloppait le corps et qui l'emprisonnait. Mais lui, le jeune homme, il est assis, revêtu d'un vêtement blanc. Ce vêtement que recevait le nouveau baptisé au sortir de l'eau, où il était entré nu, pour signifier que plongé dans la mort avec le crucifié, il en ressortait revêtu de la vie nouvelle du ressuscité. Revêtu d'une nouvelle identité, celle d'enfant de Dieu. Le voici alors qu'il se met à parler, lui silencieux jusque-là. Le crucifié n'est pas ici, il vous précède en Galilée. Ce n'est pas ici qu'il faut venir le chercher. Ce n'est pas ici qu'il nous attend. Ce n'est plus dans le drap de nos certitudes, fussent-elles des certitudes éplorées comme celles des femmes. La mort par laquelle il est passé n'est pas un semblant de mort. Le Dieu nu est crucifié, le Dieu nu comme le jeune homme, ce Dieu est ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Il a traversé. Et il nous attend de l'autre côté de la vie. Mais l'autre côté n'est pas là où nous l'imaginons. L'autre côté n'est pas au ciel. L'autre côté est du côté de notre vie quotidienne, de nos Galilées à nous où il nous précède. Serait-ce alors qu'il s'agit de recommencer comme avant, avant le confinement ? Non, car si nous avons suivi le jeune homme, c'est nu que nous sommes passés par la croix. Vidés de nos vêtements de scène, ceux avec lesquels nous donnons le change, ceux avec lesquels nous justifions de notre existence devant les autres. Nus, déshabillés de ces vêtements de scène et revêtus d'un vêtement nouveau, celui de la résurrection qui nous fera prendre les routes humaines d'une nouvelle manière, simplement accompagnés et aimés pour ce que nous sommes. Nous voilà donc dans de beaux draps, ceux avec lesquels nous sommes venus, plus ou moins récents, plus ou moins acceptables pour les autres, mais qui nous permettent d'exister devant eux. Le drap, c'est un imaginaire dont nous nous enveloppons. Au sens positif, ce n'est pas qu'une illusion. Quand le bébé naît, on l'enveloppe d'un drap. Quelque chose de très charnel, en somme. Les draps dans lesquels nous sommes entrés en confinement et ceux avec lesquels nous en sommes sortis, avec lesquels nous nous sommes enfuis loin de cette difficile rencontre avec nous-mêmes. Mais comment allons-nous vivre maintenant ? Supporterons-nous la vision du Dieu nu, crucifié, vidé des images que nous en avons ? Ou partirons-nous tout habillés encore de nos certitudes et de nos protections ? Quel Joseph d'Arimathée sera là pour nous acheter un drap et rhabiller pour nous le Christ que nous pourrons alors venir embaumer selon nos convictions personnelles ? Serons-nous les disciples loin du tombeau ? Les femmes à la recherche du corps ? Ou le jeune homme revêtu de blanc, témoin que la vie a fait son chemin, non pas à côté de la mort, non pas en niant la mort, non pas en la cachant, mais que la vie a fait son chemin en traversant la mort, en passant par la mort. Au cœur même de nos confinements, du fond du tombeau, le jeune homme nu nous a dit « Il n'est pas ici ». Il est au plus profond de ce qui fait votre humanité et vos failles. Au matin de cette Pâque si particulière de l'an de grâce 2020, c'est là qu'il nous a invités à aller le chercher. C'est là qu'hier comme aujourd'hui, il nous attend. Mais il faut pour cela laisser notre vêtement de scène. Il faut se laisser dépouiller, mettre à nu pour revêtir un vêtement nouveau. Il faut que quelque chose meure en nous pour que surgisse la nouveauté. Dans cette situation que nous n'avions jamais vécue, une occasion nous a été offerte, comme jamais sans doute. Revenons une dernière fois sur ce jeune homme. Au fond, il est comme déjà mort au moment de l'arrestation de Jésus. Il préfigure ce qui va arriver à Jésus, mis à nu. Il est comme une vision de ce qui vient. Jésus l'a vu et il s'est vu mort à travers lui, comme en un rêve. Il est aussi comme Lazare, ce jeune homme. Il est une vision pour Jésus de sa propre mort. Mais il est aussi dans le tombeau, revêtu d'un vêtement nouveau, préfigurant la vie nouvelle donnée. Le jeune homme nous indique le chemin. Il est avant et après la passion. Il est au-devant de nous. Il est ce qu'on fera, plus exactement, ce qu'on sera. Quand ils n'auront plus sur les lèvres que l'infinie litanie des désastres, quand leurs yeux s'arrêteront sur un ciel verrouillé et une terre à l'abandon, quand ils plieront sous la bourrasque des illusions perdues, et quand ils se laisseront gagner par la froidure du dedans, dis-leur. Dis-leur seulement qu'une parole vient, qui brise les évidences. Dis-leur que de l'humain, une autre version est possible. Dis-leur que l'hiver des cœurs abrite une promesse. Dis-leur surtout que la lumière attend de naître sous leurs pas, dans le terreau de leur fragilité reconnue.
Merci Élian Cuvillier. Nous venons d'entendre parler notamment un peu du confinement. En tout cas, il en a été question dans cette méditation. Et vous venez justement de sortir un livre qui s'appelle « Fin d'un monde » ou « Fin du monde, leçon du confinement » aux éditions Ampelos. Peut-être pourriez-vous nous en dire un tout petit mot de présentation ?
Oui, ce sont juste des chroniques que j'ai proposées à Réforme pendant la période du confinement, 13 chroniques que j'écrivais au fur et à mesure de cette période si singulière que nous avons vécue et que l'éditeur Ampelos, qui les avait lues dans Réforme, m'a demandé s'il pouvait les publier. Voilà, c'est fait.
Et d'ailleurs, on peut noter aussi que la préface a été écrite par Nathalie Linhart, qui est directrice de rédaction du journal Réforme.
Voilà.
Alors donc, quelques leçons du confinement dans ce livre, mais vous, à titre personnel, peut-être qu'il y a des choses que vous retenez plus précisément ?
Écoutez, je pense qu'effectivement, ces chroniques du confinement, je les ai d'abord écrites pour moi. Je suis entré, comme on dit, dans ce confinement, sans trop savoir où ça mènerait. 15 jours, puis un mois, puis deux mois. Et je crois que j'ai, pour moi, personnellement, découvert des réalités qui étaient pour moi des concepts, des notions, la solitude, la spiritualité, l'abandon. Là, je les ai rencontrés, éprouvés dans ma chair. J'étais seul chez moi. Et le fait de pouvoir écrire et de pouvoir partager ça a été déjà pour moi une façon de le traverser aussi, avec les retours que j'en avais. Et je pense que s'il y a quelque chose à retenir, et peut-être pour moi et peut-être pour les églises qui ont été confrontées à une réalité qu'elles n'avaient jamais vécue, c'est peut-être se recentrer sur l'essentiel. Nous sommes toujours pris, et on le voit avec la sortie du confinement, par l'activisme. Nous faisons sans cesse. Et pendant cette période du confinement, d'ailleurs, nous n'avons cessé d'essayer de faire quelque chose. Peut-être que ce qu'il nous faut apprendre, c'est de laisser faire, de se laisser rencontrer dans le silence, dans l'abandon, dans le lâcher-prise. Il y a peut-être quelque chose à retenir de ça. Je crains, malheureusement, que nous soyons très vite repartis dans l'activisme.
Oui, c'était la question qui venait naturellement. Est-ce que finalement, on va en tirer les leçons ou...
Alors, je pense que de toute manière, l'humanité ne tire jamais les leçons. Sinon, ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de guerre et qu'il n'y aurait plus de... Alors, maintenant, à titre individuel, il peut arriver que chacune et chacun, nous puissions retenir quelque chose de ça. Et l'Église, au fond, c'est le rassemblement d'individualités qui font communauté. Si, dans l'Église, on n'arrive pas à retenir quelque chose en communauté, d'un lâcher-prise, de ce que, au fond, Luther et Paul, avant lui, appellent la justification par la foi, c'est-à-dire, au fond, par la confiance. C'est-à-dire, c'est ce qui nous permet d'exister et de nous tenir devant Dieu, c'est pas ce que nous faisons, c'est la confiance que Dieu met en nous et que nous mettons en lui. Je crois que c'est la grande leçon à retenir, ce qui n'empêche pas que cette confiance nous mette en action, nous fasse agir, mais elle ne nous fait pas agir dans le souci de nous-mêmes, dans le souci d'exister. Elle nous fait agir pour être témoins. Et c'est ce que certains ont fait, je pense en particulier au personnel soignant, à tous ceux qui ont agi alors qu'il fallait le faire. Ben, c'est peut-être une leçon à retenir pour l'Église. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Nous sommes parce que nous vivons la confiance.
C'est une vraie réflexion sur l'identité en fait derrière qui se trame.
Exactement.
Exactement. Et vous êtes professeur à la faculté de théologie protestante de Montpellier. C'est quelque chose qui peut s'enseigner peut-être.
Alors, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai été appelé à vivre parce que je suis responsable des stages et que pendant 4 mois, il n'y a plus de stage.
Eh oui.
Il n'y a plus de reprise de stage et j'ai dû, au fil des jours, découvrir une autre façon d'accompagner. Et ça a été pour moi une grande leçon.
Eh bien, merci beaucoup. Nous voici arrivés au terme de ce service protestant proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Delphine Lemaire, avec à la prise de son Manon Houssin et aujourd'hui notre invité, donc le pasteur Élian Cuvillier. Vous pouvez bien sûr nous écrire à Service Protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris, ou encore par email à communication@fédérationprotestante.org. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de franceculture.fr ou celui de protestantaupluriel.org où vous pourrez retrouver le texte de l'émission du jour. Enfin, en podcast, c'est sur l'application de votre choix, tout simplement sous l'intitulé « Service protestant ». Belle et bonne journée à l'écoute de France Culture pour les informations qui seront suivies de l'émission talmudique présentée par Marc-Alain Wachnine.